CFM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Pour la 18e nuit européenne des chercheurs qui a lieu à Albi ce vendredi soir, au hasard d'une balade dans les rues, vous pouvez croiser M. Alexandre Aubert, qui est maître de conférence en psychologie à l'université Champollion d'Albi. Bonjour Alexandre Aubert.
Bonjour.
Alors, entre prise de conscience et hypervigilance, vous aborderez les questions d'éco-anxiété, un thème de recherche qui est nouveau pour vous et qui est par contre prégnant à l'heure actuelle dans notre société. Comment définir déjà factuellement ce que c'est que l'éco-anxiété ?
Oui, alors l'éco-anxiété, c'est vrai que c'est un concept qui est assez récent dans les médias. On entend beaucoup parler, beaucoup de personnes l'utilisent et ne définissent pas toujours très très bien. Et l'une des raisons pour lesquelles je voulais justement parler de l'éco-anxiété, c'est pour alerter un petit peu sur ces définitions qu'on peut lui donner. Alors déjà, faut avoir en tête que c'est pas forcément quelque chose de pathologique, c'est pas forcément un trouble anxieux comme on peut l'avoir dans les autres troubles anxieux. Certains auteurs considèrent comme un concept plutôt dimensionnel qui part de la prise de conscience des bouleversements écologiques, environnementaux, jusqu'à une expression qui est parfois plus compliquée pour certains individus, où on va avoir de la rumination mentale, on va avoir des troubles du sommeil, sur tout ce qui concerne, là encore, les conséquences que peuvent avoir l'activité humaine ou non sur l'environnement d'une manière générale, sur les conséquences climatiques, sur ce qu'on a pu voir de sécheresse ou d'inondation.
Mmh. Le terme est né au début de ce siècle, hein, et pourtant les hommes se sont toujours souciés, on va dire, de leur environnement. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui selon vous ?
Ah, il y a eu plusieurs facteurs, hein. On a le rapport du GIEC, hein, qui a beaucoup appuyé sur les bouleversements climatiques. On a fait un enjeu vraiment majeur pour les individus, mais aussi pour les gouvernements. C'est peut-être là que ça a un petit peu bougé les choses aussi. C'est arrivé à un niveau bien plus supérieur que celui de l'individu. Et il y a aussi un autre phénomène, hein, qui est associé aux médias d'une manière générale, les médias qu'on peut utiliser, les réseaux sociaux, où la communication de l'information se fait beaucoup plus rapidement. Elle se fait également de manière plus appuyée sur certains phénomènes. C'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup plus en avant les phénomènes négatifs, les impacts négatifs que l'homme, par exemple, peut avoir sur l'environnement, plus que les impacts positifs, ce qui fait ressurgir chez certaines personnes un traitement de l'information qui est orienté vers l'information négative, qui est associé du coup à de l'anxiété, à de l'éco-anxiété.
Alors, on est certainement plus ou moins éco-anxieux. Est-ce qu'il y a des signes qui démontrent que l'on est éco-anxieux ?
Oui, alors il y a des signes qui peuvent être observés, comme on peut dire, plutôt cliniquement, hein, quand on discute avec les individus, quand on observe leur comportement. Certaines personnes mettent en avant des difficultés à se concentrer. Alors ça va être dans les formes un peu plus accentuées de l'éco-anxiété, donc de la rumination. Elles vont beaucoup penser à ce qui se passe dans l'écologie, dans l'environnement autour d'elles. Elles vont beaucoup penser à leur propre comportement. Certaines personnes vont avoir du mal à dormir. Hein. C'est la rumination peut arriver jusque-là. On note aussi parfois, dans certains cas, des difficultés, ce qu'on appelle de fonctionnement, c'est-à-dire qu'un individu n'arrive plus à fonctionner comme il devrait fonctionner dans la vie de tous les jours. Une difficulté à aller au travail, une difficulté à communiquer avec les individus, mais ça, c'est dans les formes les plus graves. La plupart du temps, on est dans des aspects plutôt intermédiaires où on est préoccupé, voire même parfois on est préoccupé, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. On a cette sensation de stress ou d'anxiété où on est un petit peu perdu sur ce qui se passe autour de nous. Comme on peut voir, ça marche beaucoup quand on est à distance, quand on voit à la télévision les inondations, ce genre d'événements, où on ressent une petite angoisse, une petite anxiété chez nous sans trop savoir quoi faire. C'est peut-être plus comme ça qu'on le verra en réalité.
Mmh. Est-ce qu'il est possible de dresser, on va dire, une pyramide des âges des éco-anxieux ? Parce que j'ai tendance à me dire, peut-être les jeunes le sont un peu plus que les personnes d'un certain âge ?
Ah oui, ça c'est une question très intéressante. Ce qu'on voit dans les études qui utilisent des échelles d'évaluation d'éco-anxiété, il y en a qui ont été développées récemment. On observe que les personnes les plus facilement touchées par l'éco-anxiété sont les jeunes. Pourquoi ? Parce que c'est sur eux, en fait, qu'on fait reposer quelque part le bouleversement climatique, dans le sens où ça va être leur avenir, leur futur à eux, très proche. plus proche que pour les générations antérieures. Donc ça les concerne directement. Mais paradoxalement, c'est aussi la population qui a peut-être la moins de possibilités d'agir. Pourquoi? Parce qu'elles ont moins de poids, par exemple, sur les décisions de la société, moins de poids sur les décisions du gouvernement. Et le fait d'être très concerné par le bouleversement climatique, mais d'avoir peu de moyens d'agir, on voit que, enfin, c'est une des raisons qui explique qu'il y a plus d'éco-anxiété chez les populations un petit peu plus jeunes. Alors, il y a d'autres facteurs aussi. Hein. Apparemment, il semblerait que les femmes soient plus concernées par l'éco-anxiété, que les populations qui sont le plus proches des bouleversements climatiques, comme on peut en voir du côté de l'Australie, sont celles qui ont plus de risques de montrer de l'éco-anxiété. Mais d'une manière générale, c'est vrai que les jeunes sont un peu plus touchés.
Cette éco-anxiété pousse par exemple certaines personnes à décider de ne pas avoir d'enfants, à déménager pour des zones plus fraîches ou pas inondables. Est-ce que psychologiquement, on sait déjà qu'est-ce que ça peut engendrer?
Oui, tout à fait. C'est vrai que cet exemple de ne pas vouloir avoir d'enfants est très très parlant parce que ça impacte directement l'individu dans son accomplissement, dans ses projets de vie. Ça impacte également la société. Alors comment l'expliquer? Bon, ça peut s'expliquer beaucoup par le sentiment d'impuissance, hein, la caractéristique de l'anxiété d'une manière générale qui s'applique très bien à l'éco-anxiété par rapport à l'environnement, c'est le fait que voilà, on est face à un objet qui nous fait peur, mais c'est un objet qui est imprévisible, qui est incertain et sur lequel on a très peu de contrôle, ce qui explique que les individus aient du mal à se projeter. Alors là, on a aussi des formes un peu particulières d'éco-paralysie, c'est-à-dire que l'anxiété est tellement forte, mais les stratégies de faire face sont tellement pas pertinentes, efficaces, que les personnes sont incapables d'agir par rapport à une anxiété qui les mine. Il y a d'autres pistes, mais ces faits-là sont les principaux qu'on relève dans la littérature en ce moment.
Alors, vous démarrez votre recherche sur ce sujet de l'éco-anxiété. Quelle est votre démarche, en fait? C'est des échanges avec des personnes essentiellement?
Alors, cette recherche est arrivée un petit peu, comme ça se fait souvent hein, en science, un petit peu par hasard. Une collègue d'Albi, hein, Caroline Vignier, qui travaille plutôt sur la biologie des biochimie des organismes, qui avait un projet d'étudier l'effet d'un composant, le triclosan, sur de la reproduction d'espèces, la daphnie et les planaires. Donc, dans le contexte, évidemment, de bouleversements écologiques, climatiques, ce genre d'événements, et qui est venue nous voir pour explorer un petit peu avec nous ce que les SHS pourraient apporter et si, en termes de recherche en psycho, il y avait des éléments. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'éco-anxiété. J'ai contacté un collègue qui travaille beaucoup sur le sujet, Alexandre Irène. Et on a trouvé des échelles qui permettent d'évaluer l'éco-anxiété. Alors, beaucoup d'échelles jusqu'à présent évaluaient l'anxiété climatique, donc plus adapté au bouleversement climatique, à sécheresse, ce genre de choses. Et là, récemment, une échelle a été créée, une échelle d'évaluation de l'anxiété écologique, qui reprend un petit peu l'anxiété climatique, mais qui va bien au-delà et qui évalue plusieurs dimensions, comme dimensions comportementales, affectives, ce genre d'éléments. Donc, ça passera beaucoup par l'évaluation sur cette échelle-là, et puis de recueil également de discours. Qui est pas forcément capturé par les échelles.
Donc là, vous faites appel à des volontaires hein, qui veulent bien témoigner, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ce seront des volontaires. On va cibler principalement une population jeune, hein, classiquement les étudiants, parce que ce sont les personnes, comme on l'a vu tout à l'heure, les plus concernées par les anxiétés. C'est aussi la population qui demain pourra véritablement agir, qui aura plus de pouvoir décisionnel. Et voilà, c'est aussi ça qui est un petit peu intéressant. De plus, il y a une notion de comportement de consommation, puisque dans le triclosan, on le retrouve dans beaucoup de produits, notamment produits cosmétiques.
Alexandre Aubert, maître de conférence en psychologie à l'Université d'Albi. Vous faites partie de l'équipe de recherche SCOT, acronyme pour Sciences de la Cognition, Technologie et Ergonomie. On vous croise hein, à Albi ce vendredi soir à partir de 18h30 hein, pour déambuler avec vous et parler de ce thème de l'éco-anxiété. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur CFM Radio.
C'était un plaisir. Merci à vous.
CFM. CFM. CFM Radio. CFM Cordes.